Dieu créateur, Dieu Père, ne peut qu'avoir le désir de s'adresser à ses créatures et à ses enfants. Dieu, donc le nôtre, est un vrai Dieu. Nous avons une preuve irréfutable et nous savons qu'il s'adresse effectivement à nous. Il n'a rien à voir avec les idoles dont on parle souvent dans la Bible, qui sont des idoles muettes et bien sûr aveugles. Donc pour parler du langage de Dieu, nous avons développé ce discours sur quatre bases fondamentales qui vont nous permettre de découvrir plus facilement la possibilité de communication entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Alors d'abord, Dieu parle-t-il en permanence à l'homme ou reste-t-il parfois silencieux? Attend-il une occasion de s'exprimer?
C'est une question qui est très importante et c'est important que chacun y réponde pour soi. Autrement dit, on pourrait dire ça à tout le monde, Dieu parle tout le temps, oui, mais une chose c'est de dire, ben oui, je suis assez d'accord, mais une autre chose c'est de l'expérimenter et d'en être convaincu soi-même. Moi j'y ai répondu de la manière suivante. Pour que Dieu soit juste, il faut que tous les hommes entendent sa voix de la même manière, quels que soient les âges. Et par exemple, que les premiers hommes qui ont vécu sans le papier pour le courrier, l'électricité pour le téléphone ou pour le télégramme, Internet, etc., que ces gens-là puissent entendre de la part de Dieu quelque chose qui leur permette à la fois de connaître Dieu et de savoir en eux-mêmes ce qu'ils ont à faire ou à régler, finalement, pour être agréé, accepté par Dieu. Et je me suis dit, notamment en voyant, il y a une dizaine d'années, ce film « Un Indien dans la ville », de ce gars qui voit une bouteille de coca tomber
du ciel
hein, voilà, dans un peu comme un pygmée en Afrique centrale, où je ne sais pas exactement sur quelle terre il était. Je me suis dit, mais si j'étais moi, quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire et qui suit dans ma tribu et qui ne connaît personne et qui ne sait même pas qu'il y a des avions, comment est-ce que je peux faire pour être en règle avec Dieu? Et il me semble que, de ce point de vue-là, il y a d'une part le bon sens nous dit qu'il y a le langage de la création qui parle. Autrement dit, quand on voit le soleil, les nuages, le ciel, l'autre, les couleurs, les formes, les sons, les odeurs, etc. Il y a quelque chose qui est d'une richesse tout à fait attrayante et interpellante, et d'autre part qui nous parle de celui qui l'a créé. C'est ce que j'appelle le langage de la création. Autrement dit, comme si par la création, Dieu me parlait de manière absolue, et de laquelle je ne peux me soustraire, je ne peux pas ne pas entendre Dieu de cette manière-là. La deuxième chose, c'est le langage de la conscience. Autrement dit, si par exemple, moi étant encore une fois, sans aucune notion péjorative, pygmée en Afrique centrale et inculte, c'est-à-dire cultivé de ma culture, mais inculte de la culture qu'on appelle, entre guillemets, moderne, occidentale, de savoir lire, de savoir écrire, de savoir une certaine partie de l'histoire, de savoir certaines choses. Eh bien, si jamais je fais du mal à mon voisin, moi, en tant que membre de mon village, quelque part, ma conscience me reprend, et là, il y a aussi un langage de Dieu. De sorte que toute personne peut entendre Dieu lui parler en ce qu'il est puissant et capable, puissant et éternel, c'est le langage positif, le langage de la création, et d'autre part, tout homme peut entendre Dieu lui parler parce que finalement, il est repris quelque part. Le langage de la conscience. Avec ces deux langages-là, je crois qu'on peut dire de manière générale qu'il n'y a personne qui ne puisse entendre Dieu, quel que soit l'endroit et la culture dans laquelle il est placé. Et de fait, Le langage positif de Dieu, c'est un langage d'amour, hein, où la personne se sent aimée de Dieu, se sent appelée à intervenir. Le langage douloureux de Dieu, c'est le langage de la conscience, mais c'est aussi un langage d'amour, mais c'est plus le langage de la vérité ou le langage de la justice. Et avec ce langage, alors, toute personne est reprise, toute personne est interpellée, et donc toute personne est capable d'être, de se sentir en demeure, de se mettre en règle avec Dieu, et de, finalement, d'être reprise par Dieu, si reprise par Dieu, alors d'entendre de Dieu la solution, et de ce fait d'obtenir le salut. Autrement dit, il n'y a pas d'autre il n'y a pas de personne qui ne puisse finalement accéder au salut ou à la délivrance éternelle ou à la relation absolue avec Dieu
sans entendre Dieu.
En disant je n'entends pas Dieu, puisqu'en fait elle peut entendre Dieu, quelle que soit sa localisation et sa culture.
Alors on va reprendre tout ce que vous nous dites parce que c'est vraiment riche ça. Ça permet d'ouvrir la question. Donc, la nature est déjà un langage, c'est le langage de la création, hein, vous avez dit, et donc c'est vrai, on admire, on comprend que devant cette nature qui s'épanouit, les cycles du jour, de la nuit et des saisons, bien sûr, mais parfois ça peut être un peu négatif. Je pense à une inondation terrible, un tremblement de terre terrible, et là, c'est la création qui bouge. Alors, quel message, quel langage, la nature, œuvre de Dieu qui est chargée de nous apporter un message d'amour, là, ça coince.
Ouais, je trouve que dans ce langage, il y a également beaucoup de choses que l'on peut recevoir comme étant constructives et positives. Par exemple, on voit en ce moment, hein, on entend dans les nouvelles, on est début 2011, et on entend que l'Australie est inondée. On sait très bien, dans notre région, PACA, qu'il y a des zones qui sont inondables au plus haut point. On sait très bien qu'il y a des zones qui n'ont jamais été inondées. Mais on sait très bien, dans notre ville d'Aix-en-Provence, qu'il y a des maisons qui sont construites sur des terrains largement inondables, à cause du prix des terrains à Aix-en-Provence. Alors, pour moi, les crues ne sont pas forcément un problème. Par exemple, d'un point de vue millénaire, la crue du Nil est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Alors, le problème aujourd'hui des zones inondables, c'est que finalement, on a peut-être construit là où il ne fallait pas. Et c'est pour ça que je dis que dans un sens, ce langage, le langage entre guillemets douloureux de la création, est quand même un langage qui nous interpelle parce qu'il nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce que je fais avec la création? Dieu n'a pas créé une création dans laquelle je suis absolument en sécurité. Il a créé une création dans laquelle il y a des éléments dangereux, mais de laquelle je dois me préserver, me protéger avec l'intelligence qu'il m'a donnée. C'est aussi un langage de Dieu, un langage de la création.
Oui, je vous suis entièrement, mais il y a quand même une petite réserve encore. Quand l'inondation, la crue, s'étend sur un pays aussi large que la France et l'Allemagne, zone inondable ou pas, c'est un peu gênant quand même. Hein.
Alors, je comprends prenons encore quelques exemples. Sans du tout critiquer personne, en Indonésie, il y a des peuples qui préfèrent rester sur les pentes du volcan que de partir.
Même ailleurs que l'Indonésie. Hein.
Voilà. C'est un choix. C'est vrai que les terres qu'il y a sur les pentes de volcans sont plus fertiles qu'ailleurs à cause des résidus volcaniques, hein, des magmas. Mais voilà, c'est un choix. Mettons que dans l'histoire de France, la France n'a jamais été inondée.
Naturellement, non.
Voilà. Je crois que, mettons que pour nous Français qui allons entendre ces commentaires sur le langage de Dieu, on peut dire quand même que nous sommes appelés à être intelligents, à être sages, à être raisonnables et à savoir, dans ce qu'on entend de la nature, avec l'orage, avec la pluie, avec le feu, avec les tremblements de terre, par exemple. On sait très bien, en France, qu'il y a des endroits dans lesquels les risques sismiques sont plus grands.
Plus grand, oui.
Alors, la moindre des choses, c'est d'avoir des constructions antisismique. Et au Japon, ils ont construit sur un terrain sismique, ils font des constructions antisismiques, dans lesquelles les constructions sont abîmées, mais dans lesquelles il n'y a pas de catastrophe majeure avec des morts.
Et comme à Haïti.
Comme à Haïti, par exemple.
Oui. Alors, on repasse aussi à une autre notion que vous avez évoquée, c'était au niveau de la conscience. Et vous disiez, si j'ai bien compris, qu'il pouvait y avoir là quelque chose de douloureux. Mais je ne comprends pas pourquoi ce soit, ça peut être douloureux quand on prend conscience que Dieu nous parle et nous permet d'avoir un regard sur quelque chose et sur nous-mêmes, ça peut être douloureux.
Alors, si pour vous, ce n'est pas douloureux, c'est génial. Parce que ça veut dire que vous êtes malléable dans la main de Dieu et que vous progressez, comment dire, à la vitesse que Dieu veut, voudrait, de manière tout à fait optimale. Il me semble que se trouver en défaut devant Dieu et constater son défaut, sa chute, dans mon vécu, c'est quand même assez douloureux.
Non, je ne veux pas me faire passer pour qui je ne suis pas quand même. Hein. Mais disons, c'est pas en permanence. Hein, je veux dire. Bien sûr qu'il y a des moments où on a mauvaise conscience. Est-ce que je peux dire ça?
Oui.
Oui. Et oui, c'est au niveau du langage que ça.
Et avoir mauvaise conscience, c'est douloureux. Qu'on a mal choisi un habit, qu'on a trop mangé, oui.
À la limite, on s'en remet.
Mais c'est toujours douloureux.
Oui, bien sûr.
Et donc, ce langage, en fait, du reproche qu'on est amené à se faire, pour moi, est un langage de Dieu. Le langage de la conscience est un langage de Dieu, un langage qui me pousse à me tourner vers la vérité absolue, parce que j'ai besoin d'une vérité qui me fasse marcher dans un chemin que, par la suite, je ne vais pas regretter.
Oui, mais je voudrais quand même insister et vous faire dire, si vous voulez, que là, vous me parlez de mauvaise conscience, mais Dieu peut s'adresser aussi à ce langage de la conscience, mais être satisfait, avoir alors une bonne conscience quand même.
Absolument.
Voilà, parce que là, on a l'impression qu'on n'existe pas assez de ce côté positif.
Oui, mais à ce compte-là, on peut dire que quand l'homme a bonne conscience, ça ne le tourne pas forcément vers Dieu.
Oui, parce que c'est naturel ou c'est grâce à lui.
Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, alors que la mauvaise conscience implique le manque de repères, et de ce fait, le besoin de se tourner vers celui qui a tous les repères.
Donc ça nous amène à une autre question, c'est qu'effectivement donc, Dieu s'adresse à ses créatures d'une façon ou d'une autre, hein, bien sûr, mais l'homme peut refuter cet échange, cette communication. Cet appel, c'est parfois souvent quand même un appel. Et il peut même dire qu'il n'a rien entendu. Il réfute tout ça.
Oui, oui, oui. On l'entend chez les philosophes agnostiques, chez certains scientifiques, dans certaines manières de s'exprimer. On l'entend.
Non, mais ceux qui refusent Dieu ne peuvent pas dire qu'ils l'entendent. Donc,
non, moi je l'entends chez eux.
Hein, voilà. Ah, ouais, d'accord.
Hein, on l'entend. Moi, hier, par exemple, je me promenais le soir, je crois que c'est hier ou avant-hier, je voyais la lune. Bon. Et je, voyant la lune et voyant et ayant une toute petite idée, toute petite, sur la complexité du système solaire, et puis de tout ce qu'il y a derrière, qui est terriblement complexe, notamment avec les dernières découvertes en 2010-2011, suite à l'envoi de Planck, je crois, qui est un satellite particulier,
oui.
Dans lesquels ils ont fait encore des découvertes. Il y a tout un ensemble de choses qui sont en train d'être traitées par les scientifiques. Moi qui suis croyant, je suis, renouvelé dans mon besoin d'avoir affaire à celui qui a tout ça dans sa main.
Oui.
Après, ceux qui ne le font pas, je leur laisse le soin, finalement, de se poser des questions ou de savoir ce qu'ils ont à penser. Je ne peux pas répondre à leur place. Je constate simplement que, finalement, c'est comme ça qu'ils envisagent les choses. Et personnellement, je vois ce besoin de m'interroger devant Dieu, d'avoir besoin de son secours.
Donc Dieu parle à sa créature, nous sommes donc convaincus. Mais il faudrait quand même savoir une chose. Est-ce que Dieu va parler à un homme à titre individuel? Certainement, j'en suis persuadé. Mais est-ce que sa communication s'adresse par exemple à un peuple en particulier?
Dieu s'adresse à tous les peuples. Je pense par exemple à ce verset de cette lettre dite aux Éphésiens, aux gens d'Éphèse, qui est une ville de Turquie actuelle, d'Asie mineure. Quand l'apôtre Paul dit que toute patrie ou toute famille porte la marque du Père. Autrement dit, la notion de famille ou de patrie, qui est un ensemble de familles, porte la marque du Père. Autrement dit, c'est la volonté de Dieu que nous vivions en famille. Autrement dit, les nations qui sont l'entité politique de la famille, qui correspond à la famille ou à un ensemble de familles, correspondent finalement à ce que Dieu, en quelque sorte, a voulu placer sur l'ensemble de la terre. Alors, Dieu s'adresse à toutes les nations, mais pour parler à toutes les nations, Dieu utilise une nation particulière, qui est Israël. On voit à la fois dans la Bible, mais aussi dans l'histoire des nations, comment Dieu a parlé. Par exemple, dans cet événement qui est relaté par de nombreuses civilisations, le déluge, on voit que dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 9, que Dieu fait une alliance avec les nations, avec les peuples. Dieu souhaite bénir Noé, mais Noé, c'est aussi, il est destiné, puisqu'ils sont plus que huit, hein, il y a Noé, sa femme, et puis ses trois fils et ses trois belles-filles. Mais Dieu fait une alliance pour que Noé, dont il est dit que de lui sont disséminées toutes les familles à la surface de la terre, il y a une alliance de Dieu avec Noé, qui est une alliance qui dépasse largement Noé et qui va toucher tous les peuples. Mais on voit un peu plus tard, au chapitre 12, que de la famille de Sem, qui est donc un des trois enfants de Noé, quelqu'un qui se dégage, qui s'appelle Abram, ou Abram, Abram, à qui Dieu va dire, écoute, tu habites actuellement en Mésopotamie, hein, la ville, le pays du Tigre et de l'Euphrate, qui est l'Irak actuel, près du Koweït. Et Dieu va lui dire, écoute, va-t'en de là, parce que là, il y a trop de richesses. Là, tu es trop bien, là, on est trop à l'aise. Moi, je voudrais que tu sois sur un petit caillou, qui est cette terre de Canaan, où il y a pas grand-chose, où tu vas dépendre de moi, il n'y a pas d'eau, tu vas dépendre de la pluie, il y a les cultures, dans les cultures, tu vas dépendre de moi. Voilà, c'est là que je veux que tu sois, et c'est là que je veux que tu me représentes. Autrement dit, Israël est un pays qui est appelé à représenter Dieu, et pour répondre typiquement à votre question, alors oui, Dieu appelle Israël à le représenter, mais il appelle Israël à le représenter pour la bénédiction des nations. Donc, si les nations sont éventuellement jalouses de l'appel d'Israël à être le peuple de Dieu, alors elles sont vraiment à côté de la plaque, parce que c'est pour elles que Dieu a appelé Israël à le représenter. Hein, voilà comment un peu je construis les choses de manière générale.
De représenter, c'est-à-dire, je représente ce que Dieu veut.
Voilà.
Je porte son message, voilà, pour vous tous.
Oui. La destinée d'Israël, c'est d'être un pays dans lequel Dieu habite, Dieu demeure. Par exemple, quand il y a eu, à la suite des recommandations de Dieu à Moïse, ce fameux tabernacle, cette espèce de tente avec des pots, des toiles multiples, des couvertures. Le tabernacle était dans le désert, posé. Eh bien, le tabernacle était habité par Dieu, Le jour, il y avait un nuage qui était sur le tabernacle, et la nuit, il y avait du feu. Et donc, les voisins, les gens qui voyaient ça, ils se disaient « Waouh, comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça ?» Et quand, après David, puis Salomon, hein, quand il y a eu, à la suite de cette volonté de David, dans un sens d'honorer Dieu, de construire quelque chose sur pierre et avec du bois, alors Dieu est venu habiter dans ce temple, et la gloire de Dieu a rempli le temple. Il me semble que dans le temple, il devait y avoir un nuage, certainement quelque chose qui faisait que les Juifs qui étaient devant voyaient cette gloire de Dieu qui habitait, et donc Dieu était présent. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel est un des trois grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel et Jérémie. Isaïe prophétise environ 200 ans avant ce qu'on appelle la transportation d'Israël, et il l'annonce. Jérémie prophétise pendant, Ézéchiel prophétise à la fin et un peu après. Et donc Ézéchiel, à la fin, il annonce le départ de la gloire de Dieu du temple. Mais il annonce aussi dans son livre le retour de la gloire de Dieu dans le temple, comme pour dire, eh bien écoutez, à cause de vos infidélités, Dieu n'habite plus parmi vous, mais Dieu va revenir habiter parmi vous. Et là, on sait que quand la gloire de Dieu reviendra dans le temple, alors le Messie sera là, et ça sera le royaume. Et donc, dans ce royaume, il y aura ce qui s'appelle l'évangile du royaume, autrement dit, la bonne nouvelle du royaume. Autrement dit, la France enverra peut-être des ambassadeurs en Israël en disant, écoutez, on a vu que tous les indices de la bourse, toutes les découvertes technologiques, médicales, etc., montrent que chez vous, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors vous nous dites que vous avez le Messie, que finalement Dieu habite chez vous, mais allez-y, instruisez-nous, on est d'accord pour lui obéir à ce Dieu. Mmh. Hein, voilà comment je vois l'appel d'Israël.
Oui, bon, on n'en est pas là.
On n'en est pas encore là.
Oui, donc en parlant, en définissant donc cette communication à un peuple en particulier, vous avez aussi cité de nombreux exemples qui sont des formes effectivement de communication, de langage de Dieu. Les prophètes, les symboles, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une révélation.
Oui.
Quand Dieu vous parle, vous découvrez ce qu'il veut vous dire et vous en faites part aux autres. On ne garde pas, disons, ce message reçu. Sauf si ça concerne sa vie privée,
voilà.
Bien sûr. Mais dans certains cas, il faut qu'il y ait une ouverture, une transmission de messages, disons, au peuple, hein, pour simplifier.
Absolument.
Absolument.
Oui. Oui, et donc vous voulez dire par là que Dieu finalement révèle quelque chose à Israël, qu'Israël est chargé de transmettre aux autres. C'est de ça dont vous voulez parler?
Oui, il me semble, hein, puisque voilà. C'est l'alliance, effectivement, donc, qui est proposée à Israël, et puis l'annonce du Messie aussi qui va arriver. Donc ça,
voilà.
C'est une communication,
voilà,
importante.
C'est pour ça que les théologiens, actuellement, font la distinction entre ce qu'ils appellent la révélation générale et la révélation spéciale. Alors, pas d'affolement, c'est pas très compliqué. La révélation générale, c'est quelque chose qui est annoncé de manière générale, autrement dit que tout le monde peut entendre.
Oui.
Alors, dans la révélation générale...
Et ça concerne tout le monde.
Voilà.
Oui.
Les théologiens disent que Dieu s'adresse à tous les hommes par la création, et par la conscience, les deux points que nous avons vus tout à l'heure. Par contre, dans la révélation spéciale, les théologiens disent qu'il y a des choses que Dieu révèle, mais qui sont peut-être révélées à certains, mais pas à d'autres, mais que certains ont la charge de révéler à d'autres. Alors, il y a deux choses que la plupart des théologiens considèrent comme révélation spéciale. C'est ce qu'ils appellent l'incarnation, autrement dit le fait que Dieu se soit fait homme, et que en Jésus-Christ, que Dieu a parlé, et que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, donc l'incarnation, et puis aussi l'Écriture, la Bible, les livres sacrés, les livres saints. Voilà encore donc deux points de la révélation de Dieu. Révélation générale, il y a donc la création et la conscience. Révélation spéciale, l'incarnation et l'Écriture. Ça fait donc quatre choses. Quatre choses qui donnent dans l'ensemble une révélation de Dieu très complète, très riche. Alors un point rapide sur ces deux points, l'incarnation et l'écriture. L'incarnation se manifeste tout à fait dans l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, que Jésus ait existé, ça fait aucun doute. Les livres d'histoire en sont remplis. Nous sommes dans l'ère chrétienne. Mettons que on n'écrivait pas beaucoup à l'époque, mais dans le siècle dans lequel Jésus est né, il y avait des précurseurs. Jules César, quand même, qui était un écrivain, qui a écrit la guerre des Gaules, dont on a une vingtaine d'exemplaires. C'est dire s'il y avait quand même un souci d'histoire, un souci d'écriture. Et au passage, les Gaulois n'avaient pas ce souci-là. Les Romains, oui, l'avaient. Et on connaît mal l'histoire de la Gaule, parce qu'il n'y a pas eu ce souci d'écriture, alors qu'on connaît mieux l'histoire des Romains. Et alors,
le peu qu'on connaît, on ne le connaît que grâce à Jules César.
Que grâce à Jules César. Et alors, du temps donc du commencement de l'ère chrétienne au 1er siècle, il y a des gens qui sont très connus, comme Suétone, comme Pline, comme Flavius Joseph, qui sont des gens qui ont écrit, et pour lesquels il ne fait pas de doute que Jésus a existé, que Jésus est mort, et que Jésus même est mort dans des conditions tout à fait particulières, Flavius Joseph même étant quelqu'un qui parle de sa résurrection. Donc voilà quelque chose qui se passe dans l'histoire, mais qui se passe dans l'histoire d'un peuple. Autrement dit, dans la Bible, on lit que Israël est le peuple que Dieu a appelé pour le représenter, et le peuple auquel Dieu allait donner justement un chef, un prince, un choisi, puisque Messie veut dire choisi, veut dire oint, puisque le choix dans le peuple d'Israël se faisait par l'onction d'huile, et quelqu'un qui était choisi pour dominer, pour conduire le peuple d'Israël. Et on voit dans les petits prophètes, comme Michée par exemple, que Israël attend ce moment où celui qui doit dominer Israël apparaît, et lui sera quelqu'un qui amènera vraiment la paix et la sécurité. Alors voilà, on voit comment cette oui. incarnation vient dans l'histoire et vient de manière naturelle. Un tout petit mot sur l'écriture, c'est que l'écriture biblique apparaît également de manière tout à fait cohérente dans l'histoire. On sait avec les recherches, certaines recherches en tout cas, que les scientifiques considèrent comme sûres aujourd'hui, que l'écriture hiéroglyphique et cunéiforme est apparue, la hiéroglyphique en Égypte vers 3200 avant Jésus-Christ, et la cunéiforme dans le bassin mésopotamien vers 3400, un peu plus tôt. Mais l'écriture cunéiforme est une écriture compliquée puisqu'elle est représentative. L'écriture hiéroglyphique était également très compliquée. D'abord, elle est hiéroglyphique parce qu'elle est, c'est l'écriture sacrée, hieros voulant dire sacré. Et ensuite, elle est utilisée en écriture domotique pour les questions plutôt administratives, mais ça reste une écriture compliquée à écrire et à lire, et bien sûr à apprendre. Et l'écriture cursive vient seulement vers, on pense, vers entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, et c'est une écriture qui apparaît dans le croissant fertile et qui apparaît vers le Sinaï. C'est curieux ça, parce que Sinaï c'est un désert. Et donc c'est justement là où est Moïse, dans les moments où Moïse va y être, et que l'écriture finalement va se manifester, et que la Bible va être transmise de manière écrite. Alors je trouve ça très intéressant. Jésus est la parole incarnée de Dieu. Il y a aussi la Bible, une parole explicite, qui rend explicite une volonté de Dieu, quelque chose que Dieu veut faire connaître, qui n'est certainement pas l'ensemble des choses que Dieu pense, mais en tout cas qui est l'ensemble des choses que Dieu veut nous amener à entendre.
Donc, est-ce que vous voulez bien nous confirmer qu'en fait les Écritures, la Bible, c'est vraiment donc une façon de Dieu qu'il a de communiquer donc avec les hommes? Mais toutefois, si vous me dites oui, je dirais qu'il n'a pas facilité les choses, parce que la ville, c'est quand même un gros pavé. Il y a beaucoup de pages, c'est pas toujours très clair pour le néophyte. Et donc, si on veut vraiment être à l'écoute d'après les Écritures, ça va demander du travail à celui qui veut vraiment écouter la parole de Dieu.
Et on pourrait dire que non seulement il n'a pas facilité les choses parce que c'est un gros pavé, mais en plus de ça, ce gros pavé est au milieu de gros pavés, comme les Upanishads, qui sont les écrits sacrés hindouistes, comme le Coran, l'écrit sacré des musulmans, le Livre de Mormon, Doctrine Alliance, les écrits sacrés des Mormons, etc. Autrement dit, c'est pas facile de savoir, comme on dit quelquefois, à quel saint se vouer.
Oui, mais là, on le sait, nous. Alors, c'est le Dieu de la Bible.
Oui, mais quand on rencontre, si on rencontre un hindouiste, il va nous dire, mais moi, je ne me confie pas dans la Bible, et dans les Upanishads, dans la Bhagavad Gita, par exemple, je ne rencontre pas les mêmes réalités que dans la Bible. Alors, en fait, à quel écrit se fier ? Moi, je voudrais répondre très courtement à ça en disant que, de manière générale, tous les écrits sacrés montrent le problème de l'homme, qui est le langage de sa conscience. Sa conscience lui reproche quelque chose, qu'est-ce que l'homme doit faire avec ce que sa conscience lui reproche ?
On en reparlera parce que c'est très important, je crois, la conscience.
Voilà, et de manière précise, la Bible est le seul livre à résoudre dans l'absolu ce problème de la conscience. Autrement dit, le Coran brandit la menace du châtiment éternel ou du châtiment relatif de l'infidèle. La Bible dit que Dieu était en Christ. Quand Dieu s'est incarné, Dieu est venu réconcilier le monde avec lui-même. C'est ce qu'on trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17. Donc, voilà pourquoi je crois que la Bible est parole de Dieu. C'est le seul livre dans les livres sacrés qui apporte à la fois la réalité, la condamnation, le problème, oui, et puis la solution. Cela étant, venons à votre question, hein, maintenant, qui est de dire, donc, Dieu se révèle par l'écriture, mais c'est quand même quelque chose de compliqué, il y a un millier de pages, il y a des choses qui sont compliquées à comprendre, ça parle d'un peuple avec des rites qui ne sont plus tellement le rite du peuple d'Israël aujourd'hui, ça parle de choses épouvantables, les sacrifices, des lois assez terribles, des commandements qu'on n'arrive pas à respecter. On se dit aussi que ça a été écrit en hébreu et puis en grec, et les manuscrits ne sont pas tous forcément d'accord, mais est-ce qu'on peut mettre notre foi dans un livre comme la Bible aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un peu de ça dans votre question ?
Tout à fait.
Alors, ma réponse personnelle est une réponse assez simple. Si c'est vraiment comme ça que Dieu a prévu les choses, alors allons-y. Autrement dit, ça ne me gêne pas que, par exemple, dans les différents manuscrits de la Bible, il y ait des différences. On estime que si les manuscrits du texte de ce qui est appelé l'Ancien Testament, autrement dit la Bible des Juifs, sont, eux, unanimes, hein, il n'y a pas de différence, ou pour ainsi dire pas, dans les manuscrits du Nouveau Testament, il y a environ 1 à 2% de divergence. Mais par exemple, certains manuscrits disent, par exemple dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, « La foi est de ce que l'on entend et de ce que l'on entend par la parole de Dieu », disent certains manuscrits. Dans d'autres manuscrits, c'est « La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend par la parole du Christ ». Oui. Alors, certains disent Dieu, d'autres disent Christ, ce qui n'est pas une grosse différence.
Hein, voilà. Pour nous, ça n'est presque pas eu.
Voilà. En fait. Donc, on pourrait mettre, mettons la question des manuscrits un peu de côté, la question des traductions vraiment de côté, parce qu'aujourd'hui, la langue est bien connue, parce que c'est facile de comprendre ce que veut dire le texte. Alors, parlons de la globalité de la révélation de Dieu par l'Écriture. Eh bien, je pense
oui,
que...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la confrontation de l'homme au texte.
Voilà. Je pense que d'un côté, pour lire entièrement la Bible, de manière raisonnable, sans acharnement, il faut environ un an. Pour le faire, sans trop se presser, on peut le faire en un mois, on peut le faire beaucoup plus rapidement, mais enfin, mettons que Si en le faisant en un mois, donc en 30 jours, 1000 pages en 30 jours, ça fait environ 30 pages par jour. Et je mets environ 20 minutes pour lire 4 pages. Donc pour en lire 30, il en faudrait 7 fois plus. 7 fois 20 minutes, il faudrait environ 3 h 30. C'est abrutissant, c'est difficile de lire toute la Bible en un mois. Et on peut le faire comme record, par exemple, mais je ne sais pas ce qu'on en tire au bout du compte.
Mais personne ne nous le demande, de toute
Personne ne nous
façon.
le demande non plus. Mais en un an, mettons que sur la durée de vie moyenne ou générale, ça veut dire qu'on peut lire la Bible entièrement, plusieurs fois,
La
y
salle.
revenir, s'en imprégner et la connaître, et avoir un message général qui est quand même personnel. Voilà. Alors, quand on le fait, on se rend compte que il reste quelque chose de général. On finit par comprendre que, par exemple, dans le Nouveau Testament, évangile, ben, ça veut dire bonne nouvelle,
Bonne
parce
nouvelle.
qu'on s'est intéressé, parce qu'on a cherché sur Internet, on a posé la question aux uns et aux autres, et on a fini par comprendre. On a vu que, par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle les épîtres, qui sont des lettres, et qui sont là pour progrès du croyant, pour le progrès du chrétien. Il y a l'Apocalypse qui est là pour annoncer les temps de la fin. Et puis il y a tout l'Ancien Testament qui est là pour raconter l'histoire d'Israël. Et nous dit le Nouveau Testament que l'histoire d'Israël est là pour nous parler parce qu'en fait, dans un sens du point de vue individuel, nous vivons un peu comme les individus qui étaient dans Israël.
Alors, j'ai deux choses à vous demander, puisque vous parlez de la lecture de la Bible. Il semblerait effectivement, souvent, il est conseillé de ne pas lire la Bible de la page 1 à la page 1000, enfin 1000, suivant les éditions, bien entendu.
Personnellement, je suis bien ce conseil, parce que ma Bible est divisée en trois parties. Je l'ai fait un peu arbitrairement, mais suite à un conseil qui m'a été donné quand j'étais jeune, je mets une première partie à la Genèse, un premier signet si vous voulez,
Oui.
une deuxième partie au livre de Job, et une troisième partie au livre de Matthieu.
Oui, mais dans ce système-là, je pense qu'il convient, puisque vous le faites, mais est-ce que ce n'est pas gênant parce que si j'ai bien compris, vous allez lire un peu de la Genèse, un peu de Job et un peu, évidemment, du Nouveau
Mais
Testament.
pas chaque jour. Hein? Premier jour, je lis dans la Genèse. Le deuxième jour, dans Job.
Oui.
Le troisième jour, dans Matthieu. Le quatrième jour, dans la Genèse.
Oui, mais alors, le fait de morceler comme ça, est-ce que ça ne gêne pas d'avoir une vue d'ensemble, on risque de perdre peut-être le fil de l'évolution, non?
Ma Bible faisant environ 1000 pages, je lis environ 4 pages par jour. Ce qui fait que avec 4 pages par jour, mettons sur un mois, 30 jours, je lis un livre pendant 10 jours, et donc je vais lire 40 pages de ce livre en un mois. Quels sont les livres dans la Bible qui font plus de 40 pages? Alors ma réponse, il y en a peu ou pas, ma réponse c'est que je ne morcelle pas justement. Parce qu'en revenant tous les 3 jours, je finis par avoir un survol du livre qui me convient bien personnellement. Mais peut-être que d'autres peuvent faire autrement.
Je crois que ça peut convenir, votre système, en fait, pour les personnes comme vous qui êtes avancées dans la vie de foi et de la connaissance des textes. Mais quelqu'un qui démarrerait et qui appliquerait votre système, il risque de
J'ai
perdre.
commencé quand j'avais 29 ans.
Oui. Et oui, mais ça fait plusieurs fois que vous lisez la Bible.
Non, j'ai commencé à lire la Bible
Oui,
entièrement.
mais depuis.
Je l'avais entendu déjà. Mais il y avait beaucoup de livres que je n'avais pas lus, hein, à l'époque, à 29 ans. Voilà, je ne l'avais jamais lu entièrement. Voilà, donc ça c'est un conseil, c'est
Un
une
conseil,
possibilité.
d'accord, bien,
Hein.
oui. Et donc, je voulais ensuite aborder un autre point, c'est qu'on a parlé évidemment de l'incarnation. Et pour nous quand même, disons chrétiens, l'incarnation, c'est la chose la plus importante et à la limite la plus belle, puisque Dieu s'est fait homme, il nous a donné donc son fils Jésus. Effectivement, et donc là, Jésus parmi nous, ça a été aussi le langage de Dieu qui s'est exprimé.
Voilà. C'est fondamental parce que c'est fondamental pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dieu s'est exprimé complètement, nous dit la Bible. Autrement dit, il avait déjà fait écrire des choses, mais avec la visibilité de Dieu, en quelque sorte, il s'exprime complètement. Autrement dit, ce qu'il a à dire, il l'a dit. Autrement dit, dans un sens, en regardant à Jésus, nous avons complètement ce que Dieu veut nous dire, et ça limite un peu notre champ d'écoute, notre champ d'intérêt. Un deuxième point, c'est que Dieu nous a, en s'incarnant, nous a montré en quoi nous sommes à son image. Parce que quand les Juifs ont entendu, dans le livre de la Genèse, écrit par Moïse au XVIe siècle avant Jésus-Christ, que au commencement, Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu n'était pas encore incarné. Et donc, c'était quelque chose d'un petit peu troublant, ça.
C'est abstrait.
Abstrait. Alors que Jésus s'étant incarné, maintenant, nous comprenons pourquoi nous sommes à son image, et nous pouvons, en regardant à Jésus, finalement, comprendre qui nous sommes et comment nous pouvons fonctionner. Une troisième idée très importante, c'est que si Dieu s'est incarné, c'est dire le prix qu'a l'incarnation, c'est dire le prix qu'a notre corps, qu'a notre faculté humaine, hein, notre faculté de sourire, d'intérêt, d'action, faire quelque chose de ses 10 doigts, de beauté, de curiosité, de tristesse, tout cela est très important. Et donc, par exemple, dans les premières années de ma vie adulte, j'étais plutôt de style monacal. Autrement dit, j'aimais bien les pièces blanches avec les choses un peu austères, les tables en bois dépouillées. Oui. Je ne voyais pas pourquoi je ferais tant de tralala à choisir à comment m'habiller, ou etc. Et finalement, j'ai évolué en comprenant quelle était justement l'importance de l'incarnation et à quel point Dieu voulait me faire rentrer dans quelque chose de riche et de porteur pour moi et pour les autres.
Dans la nature, dans la vie.
Voilà.
Ce que vous vouliez dire.
Voilà.
Voilà. Et ça vous a été communiqué comment ? Je vous disais votre exemple, justement.
Ça m'a été communiqué par
petit à petit,
mais d'un côté par le besoin de comprendre la Bible, et de l'autre côté par comment dire le creux ou le manque que j'avais de ne pas m'intéresser à ces choses. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec ça. Je sais que je ne peux pas m'intéresser à tout. Par exemple, la gastronomie, c'est quelque chose de fantastique.
Oui,
mais j'ai pas le temps dans ce que je fais de m'intéresser à la gastronomie. J'en profite. Parce qu'en fait, quand on me fait à manger, je me régale. Mais, par exemple, l'ébénisterie, c'est magnifique. Les marqueteries, les incrustations, etc. La science, par exemple, de l'enluminure. C'est aussi très beau. Mais on ne peut pas s'intéresser à tout. Et tout ça fait partie de l'humanité. Je pense que dans l'éternité, nous aurons le temps de nous intéresser à tout. C'est dit de manière paradoxale, mais si on réfléchit bien, ça colle.
Tant mieux. Oui, mais en fait, pour en revenir aussi à la lecture des Écritures, est-ce que vous ne pensez pas que, à force de fréquenter, et enfin, quand je dis à force, je ne veux pas dire que c'est des travaux forcés, quand même pas, hein, à force donc de fréquenter quand même dans l'Écriture, est-ce qu'il n'y a pas une adaptation qui se fait du lecteur au texte, et une certaine évolution. C'est-à-dire qu'on pourrait aller, disons, à une facilité, mais surtout à une plus grande compréhension, ou découvrir chaque fois quelque chose de nouveau.
Ce que vous dites est très important, c'est lire la Bible, ce n'est pas facile. Voilà. Hein, ça, c'est absolument clair, et plus on l'affirmera, et mieux ça vaudra. Mais lire la Bible, c'est rencontrer Dieu. Quand je lis la Bible, je me tiens devant Dieu, et finalement, ce que j'en comprends dans l'immédiat n'est pas, comment dire, je n'ai pas à l'estimer comme handicapant. Si je dis « je n'ai rien compris », ça peut être vrai. Mais peut-être que Dieu veut que dans un premier temps, je bataille. Peut-être. Il a peut-être ses raisons.
Oui.
Hein, de la même manière que le pédagogue préfère peut-être à certains moments placer l'élève devant quelque chose de difficile pour qu'il bute et pour qu'il puisse se souvenir dans la manière dont il aura découvert la chose, ou au contraire des manières qui auront fait qu'ils n'auront pas découvert, et ce qui fait qu'il ne fera plus comme ça. Donc je crois que il ne faut pas reculer devant la difficulté, il faut se placer devant le livre biblique et avancer avec foi en Dieu et de manière paisible.
Restons sur Jésus, qui est donc l'incarnation de Dieu sur la terre, et qui est là parmi les hommes. Il s'est adressé à ses contemporains. Il a parlé, il a enseigné, il a utilisé des paraboles, mais on sait très bien que la plupart, disons, de ses contemporains n'ont pas toujours compris ce qu'il voulait dire, ou n'ont pas voulu, et même ses disciples, peut-être qu'il leur a fallu peut-être du temps pour réaliser ce qui était vraiment annoncé. Alors cette communication, pourquoi elle ne s'est pas faite parfaitement, puisque c'était quand même Dieu qui parlait directement, là, sans intermédiaire.
Mettons-nous en situation et essayons, je dis bien essayons, de nous placer sous le regard de Dieu. Quand Jésus vient, nous dit par exemple le prophète Ésaïe au chapitre 42, il nous dit qu'il ne fera pas de bruit, qu'il ne réveillera personne, qu'il ne fera pas valoir ses droits, que finalement, même si lui est vraiment la justice incarnée, dans un sens, il viendra et il sera incompris, rejeté, etc., etc.
C'est ce qui est arrivé.
Voilà. Autrement dit, qu'est-ce qui est annoncé? Il est annoncé tout simplement que le peuple d'Israël dans lequel Jésus doit venir est un peuple sourd, est un peuple orgueilleux, est un peuple qui ne prête pas du tout attention à ce que Dieu veut faire. Mais quand Jésus vient, Jésus sait que le peuple est effectivement comme ça. Et de sorte que ce n'est pas étonnant, en fait, que Jésus ne soit pas compris. Mais Dieu veut parler à un peuple même qui ne le comprend pas. D'où, on peut dire qu'historiquement, il n'y a pas un problème de communication. Il y a un problème de réception. Mais Dieu, qui est souverain, n'est pas pris au dépourvu. Dieu, qui est souverain, veut parler à un peuple, c'est-à-dire à une famille. C'est plus facile de parler à un individu qu'à une famille.
C'est certain.
Oui. Et mettons qu'il y a des individus qui ont obéi, mais des familles qui ont obéi, ça, il n'y en a pas. Et donc, Israël a été une famille désobéissante, Israël a été une nation désobéissante, et Jésus n'a pas été entendu d'Israël. Vous dites, et vous, avec raison, Jésus n'a pas non plus été entendu de ses disciples. Alors, c'est vrai, et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que finalement, tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité, qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qui n'a pas encore eu lieu? C'est la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Esprit de Dieu vient habiter dans les croyants, chose
fondamentalement différente. Autrement dit, quand les disciples sont avec Jésus, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit-Saint. Et Jésus leur annonce qu'ils vont recevoir l'Esprit-Saint. Autrement dit, après la mort et la résurrection de Jésus, il y a quelque chose d'essentiel, c'est l'Esprit de Dieu qui est donné aux chrétiens ou aux croyants pour qu'ils puissent mieux comprendre ce que Dieu veut faire. Comme si finalement, avant que Jésus soit venu, il y avait cette perspective du royaume de Dieu qui était là pour parler au peuple. Mais après, Jésus étant venu, alors, dans un sens, cet évangile du royaume est mis de côté pour un temps, jusqu'à ce que le Messie revienne, mais en attendant, il y a l'Esprit de Dieu qui est là pour nous faire comprendre à la fois ce que notre conscience va nous dire, mais aussi ce que la parole de Dieu nous révèle. Mais tout ça, c'est quand même du passé. Hein. C'est ce que le peuple d'Israël et les disciples faisaient.
Alors, et aujourd'hui ?
Alors, voilà.
Qu'est-ce que je dis, moi, à ma voisine, là, qui va aller faire ses courses, que je rencontre sur le palier ou dans l'escalier ?
Voilà. Alors,
Et je ne suis pas Jésus.
Et on n'est pas Jésus, mais Jésus nous a dit que nous pourrions faire de plus grandes choses que lui. Alors on va essayer de voir...
L'esprit aussi qui peut nous aider.
Voilà, de voir comment est-ce que ces choses-là peuvent être envisageables. On a donc, dans ce que nous avons vu cinq langages de Dieu. Il y en a quatre qui sont considérés par les théologiens. La révélation générale avec deux langages, la création et la conscience. La révélation spéciale avec deux langages, l'incarnation et l'écriture. Et puis le cinquième langage qui est Israël. Alors, certains théologiens entendent ce langage de Dieu, d'autres par Israël, d'autres non. Nous, on va voir comment votre voisine peut utiliser ces cinq langages. Premier langage de la création. Quand on est croyant et qu'il y a des nuages, est-ce que quand on habite Aix-en-Provence et qu'on est habitué à voir du ciel bleu, quand on voit les nuages, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit « Oh là là, il fait encore mauvais aujourd'hui » ou est-ce qu'on dit « Tiens, qu'est-ce que le Créateur veut me dire ? Pourquoi est-ce que dans mon ciel intérieur ou dans mon ciel, il faut qu'il y ait du soleil et des nuages ?» Voilà, on pourrait dire le langage de la création. Quand par exemple, je suis en train de boire du thé, je peux très bien dire, mais mon Créateur, d'abord merci pour, si j'aime le thé, hein, merci d'avoir fait ça, mais dans un sens, je me rends bien compte qu'il y a des choses que moi, je supporte bien, et d'autres que je supporte moins bien. Il y a des gens qui ne supportent pas bien le café, il y a des gens qui ne supportent pas bien la charcuterie, il y a des gens qui savent très bien que s'ils mangent trop de sucre, ils vont s'abîmer les dents, etc. Donc, il y a des gens qui, à cause du diabète, à cause du cholestérol, etc., il y a un langage de la création qui retentit dans ce que je suis appelé à vivre. Première chose.
Alors, en fait, si je comprends bien, disons, par la révélation, par la création, il faut être soumis, pas le mot que je voudrais employer, soumission, mais être attentif, disons, à la volonté de Dieu, à ce qu'il me veut de me dire.
Voilà, entendre
pourquoi
la volonté
y a des nuages,
de Dieu.
Pour simplifier, oui. Voilà.
Entendre la volonté de Dieu dans les circonstances créationnelles. Quand un volcan se réveille, quand il y a un tremblement de terre, quand finalement Dieu, quand Dieu fait pleuvoir ou pas. Parce que finalement, on a tendance à dire à résumer tous ces événements comme des événements scientifiques qui n'auraient aucun lien avec les réalités spirituelles. Voilà. Alors si je change de regard là-dessus, je peux donc, étant la voisine préférée de Pierre, finalement changer de comportement ou avoir un comportement ouvert à Dieu. Alors ensuite, la deuxième chose, la conscience.
La conscience. Bonne, mauvaise.
Voilà. Qu'est-ce que la conscience, d'abord ?
Oui.
En latin, conscience, cum, scio, ça veut dire selon ce que je sais, selon mon savoir.
Hein ? Ce que je comprends.
Avec ce que je comprends, voilà. Autrement dit, la conscience, c'est, je vais rester très simple, le langage de Dieu qui s'exprime au travers de ce que j'ai compris. Si mes parents m'ont appris à voler, comme Robin des Bois, si on m'a appris à mentir ou à être méchant, alors en fait ma conscience sera plutôt mauvaise, Mais il y aura un langage qui s'exprimera par là, où finalement, à cause des difficultés que j'aurai avec les gens, je ne serai pas bien. La conscience est un langage. La conscience est un langage, mais un langage dont la qualité s'entretient. Effectivement, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est souillée, elle est cautérisée. Cautérisée dans le sens où il n'y a plus de vie dans la conscience. Et, et au contraire, si je me remets en question, si ma conscience est malléable, si je suis d'accord pour bien me laisser sonder par l'Esprit de Dieu qui va me remettre en question, alors oui, je peux laisser à ma conscience ce rôle d'un bon indicateur. La conscience, c'est un indicateur, c'est comme une boussole. Mais quand vous êtes au nord, votre boussole n'indique plus le nord.
Pourquoi ?
Parce que vous êtes au nord. Quand vous êtes au pôle nord,
oui.
La boussole, elle ne peut plus indiquer le nord parce qu'on y est.
Ah oui, ah, oui, d'accord, oui, pardon.
Hein?
Oui, oui, oui.
De la même manière que notre conscience, quand nous sommes là où nous devons être, elle ne parle plus. Donc il faut faire attention. Comment dire, la conscience est un indicateur, mais elle n'est pas tout. Hein? Notre conscience, c'est quand même quelque chose qui nous reprend. Quand on a perdu le nord, elle nous montre le nord. Mais quand on est au nord, alors elle on y est.
Hein? D'accord, voilà. Oui, oui.
Voilà.
Je n'avais pas vu cet aspect des choses, oui.
Donc on a vu, pour la voisine, on a vu le côté pratique du langage de la création, le côté pratique du langage de la conscience. Quand je suis repris, eh bien, je fais attention à ça. Troisième côté pratique, l'incarnation. Alors, par exemple, il y a des voisines qui sont très, très, très gentilles et qui n'arrêtent pas de vous dire « c'est pas grave ». Hein? « Je suis malade, mais c'est pas grave ».« Oh oui, j'ai pas mangé ce qu'il fallait, mais c'est pas grave ». Ou bien « je le prends sur moi, quelqu'un a été méchant avec moi, mais c'est pas grave ». Voilà. Eh bien, je crois que Dieu nous appelle à reprendre l'exemple de Jésus, qui, par exemple, s'est mis en colère, ou a été triste de voir les gens qui étaient méchants, qui étaient endurcis. Autrement dit, il faut qu'on apprenne à être réellement dans ce qui est bon, dans ce qui est humain, dans ce qui est véritable pour nous. Il faut qu'on découvre en Jésus ce que nous sommes, la réalité de l'incarnation. Il faut qu'on entende parler de lui. Il faut qu'on vibre dans les chants qui parlent de lui et qui parlent finalement du message biblique. Il faut qu'on se pose des questions sur l'incarnation. Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que finalement Dieu m'a donné 10 doigts? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Où s'exprime ma sensibilité? Qu'est-ce que les gens me reconnaissent en moi de bon, d'utile? Et qu'est-ce que les gens me proposent de faire d'utile? Voilà des choses qui sont vraiment intéressantes et très pratiques. L'incarnation.
Oui.
Quatrième point,
oui.
L'écriture.
Après, l'écriture. Hein,
l'écriture. Donc, avec l'écriture, je pourrais dire à ma voisine, c'est vrai, les gens, par exemple, me disent souvent, moi, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Voilà. Alors, je dis à ces gens-là, mais je ne sais pas si ça existe, un croyant pas pratiquant. Hein, ce qui existe, c'est un croyant ignorant, oui. Mais pas un croyant pas pratiquant. Moi, je vais à l'église. Mais je ne vais pas à l'église par obligation, je vais à l'église parce que c'est un bonheur. Je vais à l'église parce que je vais retrouver des chrétiens que j'apprécie. Je vais à l'église parce que je vais retrouver des chrétiens que j'apprécie moins, mais avec lesquels je peux entrer en connaissance. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils viennent d'arriver. Peut-être parce que y a eu quelques difficultés entre nous, on s'est blessé, il faut qu'on apprenne à se pardonner. Mais là aussi, il y a des choses à découvrir. L'écriture, elle est là pour m'apprendre tout ça. Elle est là pour m'apprendre à vivre, elle est là pour me faire prendre conscience des choses. L'écriture, c'est vraiment ce qui me permet de mieux comprendre, de mieux connaître Dieu, de mieux me connaître, de mieux entrer dans une véritable vie.
De s'exprimer par un langage spirituel.
Voilà. Alors on pourrait dire, oui, mais l'écriture, elle est réservée aux savants. Elle est réservée à ceux qui savent lire, à ceux qui sont instruits. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, l'écriture, hein, la Bible, l'écriture biblique, elle est enregistrée. On peut l'écouter. On peut écouter des commentaires. On peut vraiment se donner les moyens, même pour les gens aveugles, par exemple, d'écouter des choses et avec beaucoup d'intérêt Et donc, sachons trouver des enregistrements, justement, là où ils sont, quand on ne sait pas lire, mais sachons rentrer dans les églises, rentrer en relation avec des personnes qui puissent vraiment nous permettre de tirer bienfait de l'Écriture. On a vu quatre choses.
Il reste maintenant la dernière, Israël.
Voilà. Alors Israël, voilà quelque chose qu'on pourrait, un exemple qu'on pourrait prendre de manière toute simple. Imaginons, comme ça s'est produit il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, qu'il y ait une grève en France avec le blocage des raffineries. Et que cette grève commence à durer et qu'on n'ait plus d'essence. Et on va se dire, cette grève est dure, et à cause de cette grève, on pourrait dire que par exemple à Aix, il y a un tiers des commerces qui font faillite. Parce que si pendant 30 jours vous n'avez pas de quoi ni faire de bénéfices, ni payer les salariés, alors c'est une catastrophe du point de vue économique. Et alors, cette personne pourrait se dire, mais quand donc serons-nous en paix, hein, et quand donc pourrons-nous avoir une vie dans laquelle il n'y aura rien d'injuste, parce que des gens bloquent les dépôts de raffinerie, c'est injuste, parce qu'ils empêchent les autres de travailler, dans un sens. Eh bien, j'affirme que tant que le Messie n'est pas là, eh bien, il y aura toujours des choses injustes. Il y aura toujours des gens qui gagneront trop d'argent. Hein. J'ai appris, par exemple, sur un journal hier, que Carlos Ghosn a gagné en 2010 9,2 millions d'euros. Et ça me paraît incroyable. Hein, quand on sait que, par exemple, l'agent qui vend une voiture, une Dacia, touche 75 euros. Quand il vend une voiture, une Dacia, pas une Renault, hein, une Dacia. Voilà. Et alors, il y a quelque chose qui paraît déséquilibré. Hein. Je préférerais que, par exemple, je ne vais rien dire parce que ça nous entraînerait trop loin, mais si vous voulez, quand le Messie sera là, la Bible dit qu'il régnera avec un sceptre de fer. Autrement dit, ça sera fini les inégalités. Il y aura un règne de justice et les nations apprendront la justice grâce au Messie. Alors inutile de vous dire que moi j'attends le Messie.
Que
j'attends ce moment où pendant le royaume, avec la bonne nouvelle du royaume, il y aura des choses fantastiques. Et ça, c'est aussi un des langages de Dieu. Mais un des langages de Dieu dans lesquels Dieu veut nous faire apprendre. Ce n'est pas encore l'état éternel. C'est-à-dire que ce moment du royaume n'est pas encore l'état éternel. C'est un moment où les nations et Israël apprendront à vivre avec le Messie. Et pour l'instant, on apprend à vivre, malheureusement, sans le Messie.
Oui, alors, j'allais dire, puisqu'on est dans l'enseignement et la communication, c'est, pour ainsi dire, une classe préparatoire.
Exactement. On est en train de faire nos classes. Et c'est peut-être un peu douloureux, un peu contraignant. Mais si Dieu le veut, là aussi, certainement, ça en vaut bien la peine.
Certainement, oui.